RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Édouard Dupénoit.
Et ces militaires qui se quittent en bons frères d'armes. Un drapeau qui descend, un autre qui monte. Mahamat Debi qui reprend tout à l'heure les clés de la base d'Hadji Kosseï. On ouvre ce journal au Tchad. Rétrocession de l'ultime base française après la rupture des accords de défense annoncés par N'Djamena. La douleur des blessés dans les hôpitaux de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu dans l'est de la RDC, où le groupe armé du M23 occupe toujours de nombreux quartiers. Le calme relatif de la journée d'hier a vu reprendre une activité modérée encore après plus de 3 jours de combat. Les initiatives diplomatiques fusent de part et d'autre. On se concentre sur celle de l'Afrique australe, la SADC, dans quelques minutes. L'armée malienne, ainsi que des chasseurs traditionnels d'Ozo, accusés de raids meurtriers sur des villages dans le centre du pays. Une vingtaine de personnes tuées selon nos sources, sans compter les disparitions et les incendies. Et puis le rapport de la commission Ramondi sur la violence que la France a orchestrée au Cameroun à l'époque de l'indépendance. Ce rapport accessible au public désormais, quelles suites maintenant, quelles conséquences éventuelles, on se pose la question à la fin du journal. Le drapeau bleu, jaune et rouge du Tchad flotte sur la base militaire d'Hadji Kosseï. Il n'y a plus de militaires français établis dans le pays. Ils ont rendu les clés de cette base hier à leurs homologues tchadiens. Dans une petite demi-heure maintenant, une cérémonie présidée par le chef de l'État, Mahamat Debi, doit marquer la récupération officielle de ce camp. Le premier, le principal et le plus grand de ceux que la France avait établis au Tchad. Plus d'un siècle d'existence barré d'un trait de plume en à peine 2 mois et sans crier gare. RFI N'Djamena, Victor Moria.
Tout commence le 28 novembre dernier, lorsqu'à la surprise générale, le ministre des Affaires étrangères tchadien publie une déclaration rompant les accords de défense signés en 1976. Moins de 2 semaines plus tard, les Mirage 2000, ces avions de combat, symbole du soutien militaire français au régime tchadien, décollent vers la France. Le message est clair, des deux côtés, on souhaite un désengagement rapide. Les 26 et 11 janvier suivants, les bases de Faya-Largeau au nord et d'Abéché à l'est du pays sont rendues. Ne reste alors que la plus grande base française du pays, celle d'Hadji Kosseï de N'Djamena. Les convois militaires se multiplient par la route vers le port de Douala au Cameroun, mais aussi par les airs. Une fois le millier de soldats et les dizaines de milliers de tonnes de matériel partis, Hadji Kosseï est rétrocédé le 30 janvier, les clés rendues au chef d'état-major général des armées tchadiennes. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
Au Soudan voisin, la guerre fait toujours rage impitoyablement dans les différentes régions du pays. L'armée régulière d'Abdel Fattah al-Burhan revendique des prises autour de Khartoum, mais aussi dans l'état du Kordofan du Nord, la ville d'Oum Rawaba en l'occurrence. Tandis que les forces de soutien rapide du général Hemeti semblent toujours concentrer leurs efforts autour de El Fasher, la dernière capitale régionale du Darfour qui ne soit pas entre leurs mains, un hôpital de la ville a encore été pris pour cible par des bombardements ces derniers jours. Les États de l'Afrique australe, réunis sous la barrière de la SADC, se réunissent aujourd'hui au Zimbabwe pour évoquer la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. L'offensive lancée par le M23 il y a une semaine, le groupe armé appuyé par le Rwanda, qui tient aujourd'hui de nombreux quartiers de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. On parle de ce sommet extraordinaire dans une minute. Place d'abord au terrain proprement dit. Les habitants de Goma ont timidement repris une partie de leurs activités. Hier, quelques boutiques relèvent le rideau. L'électricité a été rétablie dans certains quartiers du chef-lieu du Nord Kivu. Mais les hôpitaux de la capitale provinciale sont submergés par le nombre de blessés. Plus de 1000 civils ville touchée dans les combats, selon les bilans des différentes structures de santé. Alexis Guilleux.
Dans les couloirs de l'hôpital Il Africa, dans le centre-ville de Goma, des hommes et des femmes sont étendus sur des lits ou des matelas, même le sol. Nathalie Siro a été blessée mardi lors des combats.
Nous étions assis à 4 personnes, en train de voir comment se déroule la guerre. Mais d'un coup, il y a une bombe qui a éclaté chez le voisin et nous avons été atteints. Pas les éclats, tous. Moi, ça m'a atteint au niveau du bras et ça a fracturé l'humérus. Le papa là qui était au niveau de l'abdomen est décédé hier, malheureusement. Mais nous avons survécu.
Espérance Nsimiré souffre encore depuis sa blessure lundi dans sa propre maison.
On m'a tiré dessus chez moi, dans ma maison. Mon bras a été touché et c'est pour cela qu'on me soigne. Je me sens très mal. Dans mon corps, il y a encore une balle dans ma poitrine. On m'a dit que l'hôpital n'est pas en mesure d'enlever la balle.
Le personnel soignant n'a pas été épargné par le conflit à Goma, comme en témoigne ce médecin qui a souhaité rester anonyme.
Les agents ont été touchés, de nos chauffeurs pendant qu'ils allaient secourir ont été victimes de tirs croisés.
L'hôpital Île Africa accueille 560 blessés. La plupart ont reçu des balles ou des éclats d'obus. 25 personnes ont succombé à leurs blessures depuis le début de la semaine.
À côté diplomatique, donc, les chancelleries sont en ébullition. À Bruxelles, la Belgique demande à l'Union européenne d'envisager des sanctions contre Kigali. À Londres, le Royaume-Uni pourrait suspendre ses programmes d'aide au Rwanda. À Paris, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, rencontre ce matin Paul Kagame à Kigali. Il était hier à Kinshasa pour un entretien avec Félix Tshisekedi. C'est enfin la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, qui se réunit en urgence, elle, à Harare. Elle dont la force déployée en RDC paye un lourd tribut humain également ces derniers jours. Correspondance régionale Claire Bargelès.
L'agenda provisoire ne laisse pas filtrer grand-chose, mais l'hôte zimbabwéen a confirmé que l'ordre du jour sera dévolu au débat autour de l'engagement de la communauté dans l'est de la RDC. Car les chefs d'État doivent décider quelle suite donner au déploiement de la SAMI DRC, pour l'instant prévu jusqu'à la fin de l'année. Depuis le début de l'offensive du M23 sur Goma vendredi, l'Afrique du Sud, aussi présente sur place dans le cadre de la MONUSCO, compte déjà 13 morts du côté de ses soldats, et le Malawi 3. La situation est très difficile pour les troupes de la SADC retranchées dans les bases de Goma et de Sake, bien que peu d'informations soient communiquées sur leur état. Kigali accuse ce déploiement de ne pas être une force de maintien de la paix et de travailler aux côtés de groupes génocidaires armés comme le FDLR. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères a toutefois indiqué hier soir avoir pu s'entretenir avec son homologue rwandais et affirme que les deux pays sont engagés à faire avancer le dialogue dans l'optique d'un possible cessez-le-feu. La communauté d'Afrique de l'Est souhaite pour sa part organiser un sommet conjoint urgent avec la SADC d'ici les prochains jours. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Il est tout juste 9h37 à Johannesburg.
RFI.
Et 8h37 à Cotonou, le Bénin, où la justice condamne lourdement Olivier Bocco, ex-proche du président Talon, lui ainsi que l'ancien ministre des Sports Oswaldo Mekils, écope de 20 ans de réclusion criminelle pour avoir fomenté une tentative de coup d'État au mois de septembre dernier. Le procureur, on le rappelle, avait requis 10 ans contre l'ancien ministre et l'homme d'affaires. Un mandat d'arrêt international est lancé contre le beau-frère d'Olivier Bocco, Roch Nyeri. Les trois autres co-accusés ont été acquittés. L'amende, enfin, et les dommages et intérêts s'élèvent à 64 milliards et demi de francs CFA, soit un peu moins de 100 millions d'euros. L'armée malienne est suspectée d'une série d'exactions menées il y a 3 jours dans le centre du pays. Les FAMA, appuyés d'ailleurs par des chasseurs traditionnels d'Ozo, les faits se seraient déroulés dans la région de Ségou. Plusieurs sources locales font état d'une 20aine de personnes tuées lors du passage d'une patrouille, notamment dans les villages de Bokiwere et Monimpebougou. Des maisons, des greniers, des têtes de bétail auraient aussi été incendiées. Et plusieurs personnes sont enfin portées disparues. Abdoulaye Diko.
L'armée malienne et les chasseurs d'Onzo sont arrivés à Kabambougou vers 10h mardi dernier. Ils ont incendié des maisons et des greniers. 2 personnes ont été arrêtées. Les corps de l'un retrouvés dans la journée à quelques kilomètres du village et l'autre est toujours porté disparu. Ensuite, les militaires maliens et les Donzo sont passés par les villages de Djarakala et de Bokaribougou, toujours dans la commune de Bokiwere. Au total, 13 personnes tuées dans ces villages, des maisons et du bétail incendiés. La patrouille de l'armée a fini sa journée à Monimpebougou, une autre commune du cercle de Massina, où plusieurs personnes ont encore été tuées ou sont portées disparues. Les chiffres varient selon les sources. « Ils ont arrêté mon frère et incendié ma maison », raconte une victime. « Mon frère est toujours introuvable. » La plupart des villageois ont fui en brousse parce qu'ils ont peur, confie une autre source, peur d'être tué. Un responsable d'Onzo de la zone assure n'avoir aucune information. Mais s'il y a eu des morts, ce sont forcément des djihadistes, insiste-t-il pourtant. Une source sécuritaire malienne confirme sans détail le bilan et attribue la responsabilité de ces actes aux chasseurs d'Onzo. Sollicité par RFI, l'armée n'a pas commenté ces accusations.
Abdoulaye Diko, le Mali toujours où cela fait 2 mois que la ville de Léré, dans le centre du pays également, se trouve sous blocus terroriste. Les 26 000 habitants de ce carrefour à quelques encablures de la frontière mauritanienne vivent quasiment sous cloche. Seuls des produits de contrebande hors de prix sont encore disponibles sous le manteau. C'est le JNIM, groupe dit de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, qui opère ce blocage. Article en longueur à lire sur notre site rfi.fr. 2 informations sur le front sanitaire. Cette fois, l'Ouganda se mobilise après qu'un infirmier a succombé au virus Ebola. La fièvre hémorragique a été confirmée par plusieurs tests en laboratoire. Les autorités de santé se sont mises à la recherche immédiate des cas contacts pour enrayer tout de suite une éventuelle flambée épidémique. Et puis la Guinée qui éradique la maladie du sommeil. Seule une poignée de cas ont été détectés en 2024. Elle n'est plus un problème de santé publique. Le Cameroun, enfin, la guerre de décolonisation menée par la France et le rapport aux yeux du monde après que la commission présidée par Karine Ramondi a remis ses conclusions au président Macron et Biya. Ces travaux sont désormais accessibles à quiconque souhaite les lire sur un site internet dédié. Reste aussi à savoir ce qui va se passer désormais. Les auteurs recommandent des excuses officielles de la part de Paris ainsi qu'un enseignement clair de cette histoire aux jeunes écoliers français. Quoi qu'il advienne, certains estiment que ce rapport officiel demandé par un chef d'État va servir de point de non-retour. Plus personne ne pourra dire qu'on ne savait pas ou que ces faits n'ont pas existé. C'est en tout cas l'avis que nous livre Thomas Deltombe. Il est l'un des auteurs du livre Cameroun, paru il y a déjà près de 15 ans.
La commission présidée par Karine Ramondi dit bien que la France a mené une guerre. Donc ça, c'est important pour nous parce qu'effectivement, on avait avancé cette idée et elle est validée par 14 historiens et historiennes, donc ça c'est quand même une satisfaction. La question, elle n'est pas tant ce qu'il y a dans le rapport que l'existence même de ce rapport. C'est-à-dire que ce rapport amène à une nouvelle étape. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Vous vous souvenez que François Fillon, quand il était Premier ministre en 2009, avait parlé de cette affaire en disant que c'était de la pure invention. Bon, bah maintenant, ce type de déclaration un peu stupide deviennent impossibles. C'est-à-dire, voilà, on peut plus nier les faits. D'autant qu'en plus, tout ça a été étayé par des nouveaux documents, puisque la commission a eu accès à des nouveaux documents pour lesquels on n'avait pas eu les dérogations. Donc, tout ce qu'on avait raconté, d'une certaine façon, expliqué, étayé et solidifié, en fait, par le rapport. Donc, c'est ça, en fait, l'apport principal de ce rapport.
Thomas Deltombe, propos recueillis par Florence Maurice à 8h42 à Yaoundé. Julien Coquel-Rohem, c'est à vous.
Merci, Edouard Dupénoit.